J'ai parlé au week-end d'église de comment cultiver la vérité dans une culture de la manipulation ou de la désinformation. Marc nous a conduit dans une réflexion sur comment cultiver l'espérance dans un monde en proie au désespoir. Aujourd'hui, on va cultiver autre chose, cultiver la liberté dans une culture de l'addiction. Et je commencerai par deux tableaux. En 1946, un soldat canadien offre une cigarette, une blonde américaine, à un jeune garçon de 14 ans. Il la prend et la fume. Et depuis, il a grandi et il a continué à fumer ces belles blondes américaines. Et c'était des Peter Stuyvesant. Et il est allé en France à 20 ans, et là, il a épousé une belle brune, stéphanoise, ma mère. Ce jeune Hollandais, c'était mon père. Et mais il est toujours resté accro à ces belles américaines, ces Peter Stuyvesant. Il a fumé. Il a continué à fumer. Et c'était un chouette papa. Un homme de dialogue, un homme de pardon, un homme qui avait une sensibilité à l'égard des autres. Mais c'était un fumeur. Il a essayé d'arrêter en 75, je pense, avant qu'on parte en Belgique. Il était dans une période de transition. Question boulot, après la crise économique de 74, on en a eu quand même, hein, dans les 30 glorieuses des crises économiques. Mais voilà, il était dans une... Et en même temps... Il essaye d'arrêter de fumer. On n'en pouvait plus, la famille, parce qu'il était comme ça, il était nerveux. Et je me souviens même que j'avais 12 ans, je lui ai dit, « Papa, recommence à fumer, s'il te plaît. » Toute sa vie, accro à la cigarette. Et puis, en 2024, j'ai lu ça, un jeune de 21 ans qui passe ses journées sur les jeux en ligne, et en réseau, et il nous parle de son jeu vidéo préféré. C'est de nourrir un dinosaure et de le protéger, d'en prendre soin, de les défendre. Et il nous dit, je cite, « C'est plus facile de s'occuper d'un animal de façon virtuelle que de gérer des relations humaines. On évite ainsi de nombreux problèmes. » Il joue aussi en réseau, avec des gens du monde entier qu'il ne verra jamais. Vous l'avez compris, ce sont des histoires d'addiction, ou on dit addict, ou accro, des habitudes répétées qui nous accompagnent dans notre vie et qui peuvent prendre différentes formes. Allez, je les cite une fois pour toutes, la drogue, bien évidemment, mais l'alcool, les réseaux sociaux, la pornographie, les paris sportifs, les achats compulsifs, les médicaments, les jeux de grattage, et d'autres encore, et bien d'autres addictions. Et toutes ces addictions touchent un point essentiel de notre vie, de la vie, c'est la liberté. D'où le titre « Cultiver la liberté dans une culture de l'addiction ». Vous savez d'ailleurs que le mot « addiction » enfin, je vous l'apprends, je le savais pas non plus, je l'ai appris, que le mot addiction vient de ad dicere, attribuer quelqu'un à quelqu'un. Dans l'Antiquité, quand un homme, ou une femme, une personne, ne pouvait plus payer ses dettes, elle pouvait devenir l'esclave de son créancier. L'esclave de la personne à qui elle devait des dettes. Donc, on attribuait cette personne à quelqu'un d'autre qui devenait son esclave pour payer ses dettes. Être addict, c'est devenir quelque part esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Et donc, on touche à la liberté et surtout à son absence, l'absence de liberté, avec cette notion d'enfermement, avec une connotation de domination aussi. On est sous l'emprise du maître. Ça, c'est l'addiction. Et il y a de cela dans toutes nos addictions, petites ou grandes. petite ou grande. Jean de la Croix, un mystique du XVIe siècle, disait, et il avait une image très parlante, celui d'un oiseau attaché qui ne peut plus voler à cause de ses liens. Et Jean de la Croix dit que ce soit une lourde chaîne ou un petit fil que l'on voit à peine, c'est pareil. On perd sa liberté, le fil ou la grosse chaîne empêche cet oiseau de voler. Et pourtant, on aime sa liberté. On a envie d'être comme l'aigle qui... il est beau cet aigle, hein. On dirait une photo montage un peu. Enfin, qui survole, qui est au-dessus des sommets, qui survole. Et puis, il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. On se souvient de ça. C'est de qui déjà ? Bernard, il est libre, Max. C'est de qui ? Oh, on ne sait plus. Non, c'est pas grave. La liberté, on est pour. Il y a eu un sondage, Saufrais, sur la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, et on a demandé quel est le mot le plus important. Eh bien, liberté, égalité, fraternité, le sondage Saufrais, le plus important, c'est la liberté à 58%. La liberté élue au premier tour. La liberté plébiscitée, 30% l'égalité, et 16% la fraternité. La fraternité, ça n'intéresse personne. C'est important, la liberté, et d'ailleurs, on l'écrit sur tous les murs. Paul Éluard, liberté, j'écris ton nom sur tous les murs. La liberté, on est pour. Alors on l'écrit un peu partout, on y tient, on la revendique, mais on en doute parfois. Dans la revue des ados, que je lis toutes les semaines, il y a une petite fille de 13 ans qui parle de la liberté et qui dit « La liberté est un mot bien menteur. » C'est intéressant, ça. Petite fille de 30 ans, malgré son jeune âge, qui a bien perçu toute l'ambiguïté du mot « liberté ». La déception aussi, peut-être. C'est ça, la liberté ? Autre événement, j'étais en 2006 à Orléans et on fêtait l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage, avec un Antillais, Jean-Claude Girondin, sociologue antillais chrétien, qui nous racontait qu'à la célébration de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage à Paris, donc ça a lieu tous les 10 mai, il y avait plusieurs centaines de personnes, et il a entendu une femme antillaise, juste devant lui, qui disait « C'est bien tout ça, mais sommes-nous vraiment libres ?» Nous avons la liberté d'expression, la liberté de choix, la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et de voyager, mais sommes-nous vraiment libres pour autant ? Je pense à cette histoire aussi du jeune homme riche dans la Bible. Et on a là un jeune homme qui est bien sous tout rapport et toutes les coutures, le gendre idéal, un avenir magnifique, tu peux tout envoyer parce que c'est dans le désordre, voilà, super. Un avenir magnifique, une carrière assurée, pas de dépendance connue, une moralité en béton, un casier judiciaire vierge, et plus que cela, il a comme un intérêt spirituel, et pourtant, quand Jésus va lui demander de se libérer pour moi, Jésus, dit-il, et de le suivre, eh bien, il y a comme un souci. Il ne peut pas. Il a comme une chaîne à son pied, ou peut-être un fil. Alors, il a peut-être fait un pas vers Jésus, et puis il s'est souvenu de son fil ou de son élastique, mais un lien quand même. Et malgré tout l'intérêt qu'il a pour Jésus, il ne peut pas y aller. Il est retenu par quelque chose. Il n'est pas libre. Il ne s'appelle pas Max. Il s'appelle le jeune homme riche. Et il le sait et il s'en va tout triste. Le texte nous le dit. Et il s'en alla tout triste parce que pas libre de suivre Jésus. Le jeune homme riche, mais pas libre, s'en alla tout triste. Avec cette sensation d'être passé à côté de quelque chose qui aurait pu être important. Je lisais quelque part cette phrase, il a choisi de ne pas être ce qu'il aurait pu être. Pas de drogue, pas d'alcool pour le jeune homme riche, mais un lien, une prison quand même. Et son histoire illustre bien cette parole dite par Pierre, tout être humain est prisonnier de ce qui le domine. Dans la tête, hein. J'aime cette image de cette cage en tête qui illustre bien cette parole de Pierre. Tout homme est prisonnier de ce qui a triomphé de lui. On est prisonnier à partir du moment où quelque chose, une pensée, une pulsion, une habitude, alors la frontière entre une addiction, une mauvaise habitude ou une habitude et une addiction est fluctuante. Mais quand cette pensée, cette habitude, cette pulsion prend le pouvoir et le contrôle de notre vie et nous laisse sans la possibilité de faire d'autres choix, de nous enferme dans un comportement que l'on ne désire pas en fait. Mais comme d'habitude ici, comme d'habitude avec Dieu, il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu nous veut libres. Dieu est pour, à fond, pour la liberté, et pas seulement la liberté, mais la tienne et la mienne, et la nôtre en particulier. Un texte magnifique dont le prophète Ésaïe écrit 800 ans avant Jésus-Christ, ou 600 ans avant Jésus-Christ, n'allons pas trop, mais qui nous parle du jeûne. Donc les Juifs à l'époque s'imposaient de nombreux jeûnes, abstinence de nourriture. Le jeûne qui me plaît, dit l'Éternel, est celui qui consiste à détacher les chaînes de la méchanceté, à dénouer les liens de la servitude, de renvoyer libres ceux qui sont sous l'oppression et à briser toute espèce de joug. Vous avez quatre verbes, détacher, dénouer, renvoyer libre et briser le joug. Tous des verbes qui nous parlent de libération, qui décrivent un seul acte, libérer, revenir à l'essentiel, non pas le jeûne comme étant un geste méritoire ou un rite méritoire, l'essentiel, la liberté de tous, la délivrance de l'oppression. Et Jésus, reprend les paroles du prophète Ésaïe alors qu'il est dans la synagogue. Jésus, quand il prêche, il va dans les synagogues. Et il est dans la synagogue de Nazareth, sa ville natale. Et il va reprendre encore une phrase du prophète Ésaïe. Et il va citer « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de grâce, ou une année de libération accordée par le Seigneur. » Jésus est là pour libérer. Jésus désire la liberté aussi. Et la suite est intéressante. En général, nul n'est prophète dans son pays, il est à Nazareth. Mais, et on lit, cette parole ne laissait personne indifférent. Le message de grâce que Jésus leur présentait, les étonnait beaucoup. La libération, ça intéresse. La libération, ça intéresse beaucoup de monde, avec en plus la gratuité, une grâce, une année de grâce. Et dans l'évangile de Jean, un peu plus tard, nous assistons à un dialogue très intéressant, un peu décalé, entre Jésus et des hommes qui se croient libres, les autorités. C'est Jésus qui lance le débat. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. On peut mettre le texte, voilà. Et c'est une parole qui choque les interlocuteurs et qui répondent, un peu choqués, nous lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne, comment peux-tu dire vous serez des hommes libres? C'est quoi cette histoire? Ils sont offusqués en quelque sorte, comme on peut l'être quand quelqu'un met le doigt sur une vérité qu'on cherche à cacher ou même qu'on ignore. Moi, je suis l'esclave de rien, moi. Moi, je n'ai pas de problème, je contrôle tout, je fais ce que je veux. Et si, et on entend souvent ça hein, pour les fumeurs, j'arrête quand je veux. Ils ne comprennent pas parce que Jésus parle d'un autre niveau, pas sur le plan social, mais sur le plan spirituel, et il appuie là où ça fait mal. Si vous êtes esclaves dans vos têtes, dans vos cœurs, et vous avez vraiment besoin, vous avez besoin d'être vraiment libre. Et tout l'accent tombe sur le vraiment. Vraiment libre. Libre en profondeur. Et Jésus va surprendre encore en désignant le problème de fond pour la liberté. C'est pas la société, ce n'est pas l'hérédité, ce n'est pas la génétique, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la politique. La question centrale, c'est celle du mal. Du mal. Et du mal personnel. Dernier texte. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Oh mince, ça y est, on revient avec ce mot péché, ce grand mot, ce gros mot presque aujourd'hui, qui fait partie du vocabulaire traditionnel du christianisme et qui a été utilisé à tellement de sauces qu'on peut en être dégoûté de ce mot, avec raison. Péché, péché, péché. Mais je vous demande de faire abstraction de tout ce que vous avez déjà entendu sur ce mot et de revenir à ce qu'il veut dire en premier. Rater la cible. En grec, amartia, péché, veut dire rater la cible. Le péché proprement dit, c'est être à côté de la plaque, de marcher à côté de ses pompes, de passer à côté de l'essentiel. J'ai lu quelque part que le plus grand esclavage, c'est lorsque l'homme rate ce qu'il est destiné à être. Quand l'homme rate ce qu'il est destiné à être, c'est le plus grand esclavage. Passer à côté de l'essentiel, son être. Dieu nous dit dans sa parole que l'essentiel pour l'homme est de vivre dans le cadre d'une relation librement consenti avec un Dieu personnel qui est rempli d'amour et d'intérêt pour les êtres qu'il a créés. Et l'homme et la femme sont destinés, comme dans le jardin d'Éden, à vivre dans cette relation vivifiante et vivante avec Dieu, une relation essentielle, une relation qui nous fonde. Mais quand il sort de cette relation, il ressent comme un vide, et comme la nature a horreur du vide, il se jette dans des esclavages de toutes sortes. Il s'emprisonne lui-même dans toutes sortes de prisons et d'oubliettes où on oublie l'essentiel. Et les comportements addictifs, j'en ai déjà parlé, drogue, sexe, violence, alcool, médicaments, jeux, mais aussi peut-être l'agressivité, la colère constante, latente, la jalousie, la culpabilité, la haine, avec le film de Mathieu Kassovitz, la haine qui mène toute notre existence, le manque de pardon, en plus le désir de vengeance, genre la vendetta Corsica, les cycles, les spirales, on se venge, et on se revenge, qui nous enferment. Et tous ces comportements dont on peut être esclave dans la mesure où ils triomphent de nous, ce sont des manifestations extérieures de ce problème très intérieur du péché qui est de rater sa cible d'une relation vivante et libératoire avec Dieu. La Bible parle de l'emprise du péché, ou l'emprise de ce mal, l'emprise de rater la cible du mal personnel sur notre vie, et elle nous invite à changer de régime, à sortir de l'emprise ou de régime totalitaire du péché à un régime de la véritable liberté et à venir volontairement nous placer sous le régime de la vérité, comme on en a parlé au week-end d'église. Alors, quelle vérité ? Ben, tout simplement, la vérité de la bonne nouvelle libératrice de Jésus, c'est-à-dire de l'accueil de Dieu en Jésus-Christ, la vérité de la victoire de Jésus sur le mal à la croix. Victoire que nous fêtons à Pâques et que nous fêtons à chaque fois que nous célébrons la Sainte Cène en nous rappelant la croix et la résurrection, la vérité de Pâques, c'est que nous ne sommes pas condamnés à rester en prison. Il n'y a pas de déterminisme dans la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas condamnés. Il vient briser tous les déterminismes. Et cette vérité-là vous rendra libre, dit Jésus, encore une fois, ce verset incroyable. Vous connaîtrez la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Ou je suis le vrai chemin de la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des gens libres. Quel passage ! Ce lien entre vérité et liberté. Parce que la vérité du Christ, la vérité de Jésus s'attaque au plus grand mensonge de notre vie et de notre monde. Ce mensonge qui nous dit qu'il n'y a pas de solution possible, que ce monde est absurde et que dans ce monde rien n'est important et certainement pas toi. Le mensonge que la vie est sans espoir, qu'on est déterminé à vivre notre vie dans la dépendance et dans la culpabilité qui en découle, la vérité qui vient nous libérer de ce mensonge-là. En vérité, dit Dieu, dit Jésus, Dieu nous appelle à changer de régime et à nous placer sous le régime de la grâce, qui veut dire la liberté. En 2008, dans l'église d'Orléans, nous avons reçu ce témoignage d'une jeune fille de 19 ans, Laura. Encore deux histoires d'êtres humains. D'abord Laura, qui nous a parlé avec beaucoup de courage de son anorexie. Elle était tellement loin qu'on a dû l'hospitaliser et elle nous a parlé de son combat contre le mensonge de l'image qu'elle avait ou sur l'image qu'elle avait de son corps et de sa personne, un combat difficile où elle a vu la victoire en se plaçant sous un autre régime, celui de la grâce et de l'accueil de Dieu en tant et ce Dieu qu'il aime et qui le prouve en Jésus-Christ. Et je ne sais pas si elle a cité ce texte, je ne m'en souviens plus, mais son histoire en était l'illustration parfaite. Vous connaîtrez la vérité sur vous et sur l'amour de Dieu et sur la valeur que vous avez aux yeux de Dieu, et ça fera de vous des gens libres. Et Laura s'est placée sous la vérité de Dieu. Son regard sur elle, le regard de Dieu sur elle, et elle a été libérée du mensonge et de son anorexie. Elle lutte encore, parce que il y a des choses que l'on ressent dans le corps, hein. Mais il y a de retour, mais elle goûte à cette nouvelle liberté. Elle est partie, suite à ce témoignage, en Argentine, dans une mission chrétienne et le service des plus pauvres. La vérité de l'Évangile et la grâce. Deuxième histoire, Alain van der Elst. Un peu comme Van der Doos, mais en un mot, il est belge. De la région de Mons, une famille très riche, trois pharmacies à Mons, un gars doué pour l'écriture, pour la peinture, pour le sport, champion de Belgique du 10 000 mètres. Et je l'ai rencontré en 90 pour la première fois. Un ami chrétien exposait dans la galerie d'Alain van der Elst, au centre de Bruxelles, à Saint-Gilles. Et j'ai été invité au vernissage et j'ai rencontré Alain pour la première fois, le galeriste, 1m85, 1m86. Il était saoul, complètement saoul. Il tenait encore debout, mais ses yeux étaient vitreux. Il était l'ombre de lui-même. Il était saoul, ça se voyait et ça se sentait. Alain était alcoolique, emprisonné dans l'alcool. Il était gros, il avait pris du poids, il faisait plus de sport, il ne produisait plus rien, c'était une épave. Et quelques années après, il prend un nouveau départ, il se place sous la grâce de Dieu et il arrête l'alcool. Il y a belle lurette que sa femme juge à Mons, a divorcé, il se remarie, il retrouve sa liberté. Et pour lui, ça a été radical, c'est pas toujours le cas, mais pour lui, ça a été radical. Il était comme cela, Alain van der Elst. Mais je me souviendrai toujours de lui car il m'avait impressionné, il m'avait dit « je n'ai plus goût à la boisson, je n'ai plus besoin, j'en ai plus envie ». Il a quand même fait les Alcooliques Anonymes de Mons, il a été même président des Alcooliques Anonymes, pour ne pas retomber, parce que comme je le disais pour Laura, il y a toujours des inclinations, des inclinaisons. Et j'ai connu Alain comme étant une personne fantastique et j'ai rarement vu une personne qui a eu comme ça autant de fruits spirituels dans sa vie. Un enfant... Enfin, bref. Il est mort à 49 ans d'un cancer du foie. Mais il est mort en homme libre. J'ai noté une phrase d'une femme qui disait « Ma liberté, c'est d'être saisi par Dieu. C'est vivre avec Dieu une relation libre, prendre la main de Dieu pour une relation essentielle et personnelle. » Et je m'adresserai à ceux qui sont encore en recherche spirituelle ce matin, qui ne savent pas trop où ils en sont, qui sont un petit peu par hasard ou sur invitation, un petit peu surpris du ton de la prédication. On va rien vous demander, mais je voudrais simplement vous inviter à réfléchir sur ce mot « liberté » et ce qui signifie pour vous de mettre ce mot-là en rapport avec ce que Jésus dit dans cette parole sur la liberté et se poser honnêtement quelques questions. Est-ce que je suis vraiment libre ? De quoi suis-je libre ? N'y a-t-il pas dans ce que dit Jésus un chemin vers la liberté, un vrai chemin ? Et puis, pour être pratique, je voudrais citer quelques pistes, quelques suggestions. Ce ne sont que des suggestions que j'ai dites pour ne pas nous laisser enfermer. Parce que, comme je l'ai dit pour Laura, pour Alain, les risques de rechute sont possibles. Et l'apôtre Paul s'adresse aux Galates, aux chrétiens qui sont en Galatie. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. Restez libres. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, ne vous laissez pas réduire de nouveau à l'esclavage. On pourrait, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, retomber. Vous, moi. Et la rechute est possible, mais c'est pas perdu pour autant. Grâce de Dieu est à l'œuvre en continu. Et quelques pistes alors. D'abord, peut-être, accepter ses limites d'être humain. Accepter qu'on peut pas tout savoir, qu'on peut pas tout comprendre, qu'on peut pas tout posséder, qu'on peut pas tout dominer, qu'on peut pas jouir de tout, qu'on peut pas tout maîtriser dans sa vie. Ne pas confondre liberté et indépendance. Je peux vivre ma liberté dans la dépendance de Dieu. Et ce texte aux Corinthiens le dit bien, il n'est pas noté, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Je veux rester dans cette relation de dépendance libre avec Dieu et de ne pas vouloir prendre la place du Créateur et accepter les limites de créature. Vivre des sabbats religieux, réguliers, pas spécialement religieux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand le peuple d'Israël sort d'Égypte avec Moïse, une des premières lois qui arrive, c'est le sabbat. Hein ? Tu feras, ils sortent du pays de la servitude, ils rentrent dans la liberté, et puis ils ont un jour de repos est institué, de repos en Dieu. Un temps à part d'une rupture avec les habitudes de la semaine qui commence, on va dire. Oh, enfin, c'était le samedi. Vivre des sabbats, des périodes, quelques jours de temps en temps, pour voir si on peut s'arrêter de travailler vraiment, de regarder ses mails, de faire du sport qui peut être un addict, de jouer à des jeux, de regarder des séries, faire des sabbats, des séries, d'arrêter de boire. Il y a un mois de jeûne, le mois de janvier, hein, et j'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de gens qui appréciaient ce mois de sobriété du mois de janvier. Dry January, si je cherchais là. Sec. Arrêter de grignoter, arrêter de fumer, vivre des sabbats réguliers pour mettre à distance ces addictions ou ces habitudes répétées qui tendent à redevenir addiction. Et puis, troisièmement, analyser son comportement, élaborer des plans d'action. Alors, c'est ça un petit peu difficile, mais se poser des questions simples. Qu'est-ce qui occupe mon temps et mes pensées? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour bouger un peu les lignes? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois limiter certains engagements? Je dois changer quelques habitudes de la vie, de ma vie? Élaborer un petit plan d'action. Pouvoir prendre un petit peu de recul sur soi-même, de temps en temps. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, dit le psaume. Arrêtez et puis, où est-ce que j'en ai? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce qu'on en est? Et puis, dernier mot, comme il est difficile justement d'avoir ce recul et d'avoir une vue objective sur soi-même, on est très subjectif, en parler à une ou deux personnes de confiance. En parler, c'est vraiment une aide parce que même dans des habitudes qui peuvent paraître mineures. Et le fait d'en parler, de le dire, est la première étape vers la liberté. En plus, ça nous engage devant ces personnes. Alors, c'est extrêmement difficile d'en parler. On se met à nu. Mais il faut le faire assez précocement. Et ça délivre. J'insiste sur les personnes de confiance qui peuvent prier, vous suivre, qui ne vont pas le divulguer à tout le monde. Et il y a encore des personnes de confiance, quoi qu'on en dise. Voilà quelques possibilités pour lutter ensemble et pour ne pas se laisser enfermer dans des addictions. Dernier mot, Martin Luther King, qui dit « enfin libre, que le Dieu Tout-Puissant soit loué, nous sommes enfin libres ». Et j'aime cette image de ce bateau et le psaume 18-19, verset 19, qui dit « Le Seigneur m'a mis au large, il m'a délivré car il m'aime ». Et le Seigneur nous engage dans ce chemin de la liberté, celui de sa grâce, être enfin libre comme un poisson dans l'eau. Amen.